pas même Gabriel Fabre, l'ami des poètes, musicien encore plus oublié qu'Henri Levet lui-même. Les deux hommes furent voisins, rue Lepic, à Paris, et Levet lui dédia sa carte postale de Port Saïd. On regarde briller les feux de Port Saïd, comme les Juifs regardaient la terre promise. Car on ne peut débarquer, c'est interdit, paraît-il, par la Convention de Venise, à ceux du pavillon jaune de quarantaine. On n'ira pas à terre calmer ses sens inquiets, ni faire provision de photos obscènes et de cet excellent tabac de la Taquillée. Poète, on eût aimé, pendant la courte escale, fouler une heure ou deux le sol des pharaons, au lieu d'écouter Miss Florence Marshall chanter The Belle of New York au salon. On aimerait découvrir un jour, dans une malle oubliée, une partition de Fabre sur les vers de Levet. Pauvre Gabriel Fabre, qui sombra dans la folie. Il passa ses 10 dernières années abandonné de tous à l'asile. Il avait mis en musique Mallarmé, Maeterlinck, Laforgue, et même des poèmes chinois. De très anciens poèmes chinois, dont on aime à imaginer que c'était Henri Levet, son voisin, qui lui en avait offert la traduction. Des mises en musique sans génie, malheureusement, de pâles mélodies. Voilà ce qui devait plaire au poète. Les mots y avaient plus d'importance que le chant. On peut d'ailleurs tout à fait imaginer que cette généreuse modestie coûta à Gabriel Fabre sa part de fortune posthume, trop occupé qu'il était à assurer celle des autres. Sarah chérit les cartes postales comme un trésor aussi précieux que les œuvres de Pessoa. Elle affirme d'ailleurs que le jeune Alvaro de Campos s'est inspiré d'Henri Levet, qu'il avait lu dans l'édition de Fargue et Larbeau. La figure de cet Henri, dandy et voyageur, mort si jeune dans les bras de sa mère, l'émeut. On comprend pourquoi. Elle racontait, à Téhéran, dans les profonds fauteuils en cuir Havane de l'Institut français de recherche en Iran, comment, adolescente, à Paris, elle aimait les paquebots, la rêverie des paquebots, les messageries maritimes et toutes les lignes coloniales. Faugier la taquinait en affirmant que c'était une passion de garçon, que les bateaux comme les trains avaient toujours été des jouets de garçons et qu'il ne connaissait pas de fille digne de ce nom qui se soit passionnée pour de telles choses, la marine à vapeur, les transmetteurs d'ordre en cuivre, les manches à air, les bouées, les grosses boules d'or des compas, les casquettes brodées et les fières lignes d'étrave. Sarah admettait que l'aspect technique ne l'intéressait que moyennement, même si elle était capable, affirmait-elle, de se rappeler les caractéristiques des navires, telle taille, tant de tonneaux, tant de tirants d'eau, telle vitesse. Elle aimait avant tout les noms des paquebots, et surtout de leurs lignes. Marseille, Port Saïd, Suez, Aden, Colombo, Singapour, Saïgon, Hong Kong, Shanghai, Kobe, Yokohama, en 35 jours, deux fois par mois le dimanche, à bord du Tonkin, du Touran ou du Kaobang, qui jaugeait 6700 tonneaux au moment de son naufrage par temps de brouillard devant l'île de Pulo Condor, atroce bagne, dont il relevait les gardes Chiourme, au large de Saïgon. Elle rêvait ses lents itinéraires maritimes, la découverte des ports, les escales, les salles à manger de luxe avec leurs boiseries d'acajou, les fumoirs, les boudoirs, les cabines spacieuses, les menus de gala, qui devenaient de plus en plus exotiques au fur et à mesure des escales, et la mer, le liquide originel remué sans état d'âme par les astres, comme le barman secoue un shaker d'argent. L'Armand Beik, des messageries maritimes, file 14 nœuds sur l'océan Indien. Le soleil se couche en des confitures de crime dans cette mer plate comme avec la main. Car il y a un Orient au-delà de l'Orient. C'est le rêve des voyageurs d'autrefois, le songe de la vie coloniale, le rêve cosmopolite et bourgeois des wharfs et des steamers. On aime imaginer Sarah, jeune fille, dans un appartement tout à fait terrien du 16e arrondissement.